Carnet de campagne, le journal des solutions.
Marine Supiot, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous informer de l'existence de Mineca, une association très particulière fondée par des architectes à Villeurbanne en 2016. Et Mineca qui fait aussi la première page en titre de la dernière revue Sans Transition, janvier-février 2022. On salue nos amis si vous voulez le voir. C'est sanstransitionmagazine.info. Et Mineca, donc, est chargée de démocratiser le réemploi des matériaux de construction par plusieurs moyens, on va expliquer. Tout d'abord, on dit, ça y est, le BTP va de plus en plus, et c'est au zéro déchet, va vers le zéro déchet. En fait, si vous existez, c'est parce que il y a des entreprises qui ont beaucoup de déchets.
C'est ça. Et c'est assez malheureux finalement, mais c'est tout à fait la raison pour laquelle Mineca a été créée au tout début. Parce que le secteur du BTP, c'est à la fois le premier extracteur de ressources, mais c'est aussi le premier producteur de déchets en France. Donc on estime à peu près 850 000 tonnes de déchets produits rien que sur la métropole lyonnaise en un an.
Ça paraît contradictoire parce que vous récupérez des déchets, vous les collectez. Vous pouvez les remettre en vente, alors évidemment à des prix très bas, aux particuliers comme aux professionnels. Mais si les professionnels s'en débarrassent et que d'autres professionnels les récupèrent, on voit pas l'intérêt de s'en débarrasser au départ.
C'est vrai que ça nous paraît, nous, finalement une aberration quand on voit tous les matériaux qui sont jetés aujourd'hui, que nous on récupère et qui sont encore en très très bon état. Et c'est qu'il y a beaucoup de raisons finalement, à la fois sur des habitudes qui sont ancrées dans les processus, et finalement une question de combien ça va me coûter, oui. Qu'est-ce que je vais en faire. Et ça, c'est vraiment un point fondamental qu'on essaie de beaucoup évoquer avec nos adhérents professionnels, c'est que ce matériau, il a peut-être plus d'usage pour vous, mais il peut tout à fait être réemployé par quelqu'un d'autre.
Puis l'avantage pour les entreprises partenaires qui sont en accord avec Mineca, c'est de ne pas avoir la charge de la gestion des déchets.
C'est ça, tout à fait. Nous, ce que l'on fait, en fait, c'est que donc on va chez les professionnels uniquement du BTP. On vient collecter les matériaux en pied de chantier. Donc ça peut être à l'issue d'un gros chantier de construction, de déconstruction, mais ça peut être aussi par exemple un menuisier qui a très régulièrement des chutes de panneaux de bois par exemple, et on les ramène au stock. Donc ça va lui éviter le transport jusqu'à la benne, mais aussi des frais de mise en benne qui sont aujourd'hui toujours de plus en plus importants pour essayer de limiter ce gaspillage.
Combien de tonnes de matériaux vous avez sauvé de la benne?
Alors aujourd'hui, on est à peu près à 300 tonnes de matériaux sauvés de la benne sur l'activité de collecte redistribution.
Et le magazine Sans Transition dit vous souffrez d'un manque de place.
C'est ça, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez clé dans le réemploi, c'est que ces matériaux, entre leur redistribution et leur collecte, il faut pour les stocker. Et aujourd'hui, les mentalités évoluent de plus en plus. Et donc du coup, il y a tellement de matériaux à sauver que voilà, on a 700 mètres carrés, il nous faudrait encore plus.
Le lieu, le Minestock, comme vous l'appelez, est au 182 rue de la Poudrette à Villeurbanne. Pour profiter des avantages des matériaux que vous proposez, il faut obligatoirement adhérer à l'association.
C'est ça. En fait, on va demander aux personnes qui viennent se fournir chez nous, donc c'est à la fois les personnes que l'on va collecter, mais aussi les personnes qui viennent se fournir, d'adhérer à l'association. Donc ça permet en fait de soutenir l'association. Et ça représente à peu près 10 euros à l'année pour des particuliers, 50 euros pour des associations ou des petits entrepreneurs, et ça augmente après pour les grosses structures.
Quels sont les matériaux que vous récupérez en plus grand nombre?
Sur nos best-sellers, on va avoir beaucoup de bois en ce moment, donc du bois de structure, des bastings, des chevrons. On a d'immenses poutres de 8 mètres qu'on a collectées récemment. Et puis, on a tout ce qui va être aménagement comme du parquet, de la moquette, du carrelage, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez variable.
Et comme il est spécifié aussi dans le magazine, je cite un chef de projet d'aménagement de chantier qui dit « L'ambiance globale pousse les professionnels à aller vers le réemploi aujourd'hui ».
C'est vrai. Aujourd'hui, on a pas mal d'évolutions qui se passent, notamment par exemple avec la dernière loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui en fait va vraiment intégrer le réemploi comme le recyclage, comme vraiment des indispensables en fait dans la gestion, et tendre vers une économie qui soit vraiment circulaire, c'est-à-dire qu'on réinjecte la matière dans une boucle vertueuse finalement, et ça va finalement, je pense, dans les années prochaines devenir quasiment obligatoire, comme du bon sens finalement, voilà, de ne pas jeter ces éléments-là.
Attitude qui vous a permis de remporter des prix de cette éthique d'économie circulaire. 8 prix remportés, 60 entreprises collectées, 1000 adhérents gelés, 25 bénévoles, 5 salariés, 700 mètres carrés, il va falloir repousser les murs, et 300 tonnes de matériaux sauvés de la benne. C'est impressionnant, hein. Mineca.fr, et puis donc je rappelle pour l'article dans sanstransitionmagazine.info. Merci Marine.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Depuis janvier 2019, s'est mise en place une opération solidaire de grande envergure, j'ai nommé l'entreprise des possibles. Il s'agit d'un collectif d'entreprises mobilisées autour de la cause des sans-abri de la métropole lyonnaise. L'exemplarité de l'opération fait réfléchir par le lien qui est tissé entre des entreprises et des associations caritatives de ce territoire. Exemple, des programmes de logement pour des personnes qui n'ont plus de toit ont été réalisés à l'image du soutien à l'association Habitat et Humanisme Rhône. Il s'agissait entre autres de profiter de réserves foncières temporaires d'entreprises partenaires pour y installer un hébergement. En l'occurrence, ce sont 33 containers aménagés qui ont permis d'accueillir 80 personnes. Pour chaque opération, le salarié de l'entreprise engagée dans l'association peut participer de son côté lui-même en donnant un petit peu de temps sous forme de bénévolat ou en cédant un jour de congé payé. L'entreprise peut de son côté mettre à disposition des locaux vacants pour une durée limitée, celle qui versera d'ailleurs la somme des journées de congé non pris par ses salariés à l'association. Ce dispositif a permis, depuis son démarrage, de venir en aide à 3000 personnes. Le nombre d'entreprises adhérentes et de ressources financières a doublé en 2021, signe d'une belle mobilisation en faveur des plus précaires. Résultat, 100 entreprises ont adhéré, le don des congés payés a franchi le cap du million d'euros en 2021. Parmi les dernières initiatives de ce pont entre entreprises et associations, la halte des femmes, c'est un accueil qui permet de loger des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement dans la métropole lyonnaise. Cette solution d'accompagnement a été réalisée avec l'association Alinéa. Allez voir le site, c'est très enrichissant ce qui se passe entre ces associations pour les sans-logis et les familles avec de très très faibles ressources et les entreprises. Le site, c'est l'entreprisedespossibles.org. Arnaud Gautelier, bonjour.
Bonjour et merci de m'inviter.
Avec plaisir Arnaud, parce que vous êtes au service de dizaines de milliers, très exactement de 110 000 personnes en France, pour l'instant diagnostiquées pour la plupart entre 20 et 40 ans, d'atteinte par la sclérose en plaques. Alors, vous avez créé en 2007 une association nantaise qui a un intérêt national, évidemment, notre sclérose. Oui. Petite question très personnelle, Arnaud. Vous souvenez des mots qu'on vous a dit en 1999 quand on a diagnostiqué cette sclérose chez vous?
Moi, c'était un petit peu long pour mettre un mot sur ce que j'avais. J'ai dû attendre quelques mois avant de savoir, parce qu'il faut faire deux IRM pour vraiment dire que c'est une sclérose en plaques. Mais moi, quand on m'a dit que j'avais une sclérose en plaques, j'ai été évidemment abattu, mais surtout, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était une maladie de personne âgée, en fait. Mais en même temps, j'étais soulagé qu'on ait mis un mot sur mon mal, parce que je me suis dit, voilà, maintenant, ils vont pouvoir me soigner.
Comment on gère ce mal, pour connaissant des personnes qui sont concernées par la sclérose en plaques? Il y a des hauts et des bas. C'est une maladie qui fait des allers-retours.
Ouais, c'est ça, avec une épée de Damoclès qui peut tomber à n'importe quel moment.
Absolument.
Donc moi, comment j'ai fait? Je me suis réfugié dans mon travail. À l'époque, j'étais directeur artistique dans une agence de publicité à Paris, donc je me suis vraiment mis à fond, corps et âme dans mon travail, en essayant de penser le moins possible à ma maladie, de continuer d'avoir une vie de jeune adulte, et de sortir avec les potes et faire la fête.
Jusqu'au jour où c'est plus possible?
Oui, c'est ça. À un moment, c'était plus possible de travailler en agence, et en agence de publicité, donc j'ai arrêté et je me suis concentré pour écrire un livre témoignage sur ma maladie. Donc c'est un livre qui s'appelle « Je te plaque ma sclérose ». Mmh. En fait, ça aboutit à ce que j'ai créé après, qui est l'association, parce que j'ai reçu plein de lettres en fait de patients et de proches qui m'expliquaient aussi leur maladie. Donc je me suis dit, je vais leur offrir une vitrine, donc c'est un site internet, un blog à l'époque, où j'ai diffusé les témoignages des patients. Et un an après, je l'ai transformé en association parce que ça prenait beaucoup d'ampleur et ça me prenait beaucoup de temps.
Et alors, depuis quelques semaines, vous avez lancé une application « Ma vie avec la sclérose en plaques », si je traduis bien. C'est une immersion pour toute personne curieuse de savoir quel est le parcours d'une personne concernée. C'est une immersion complète via le net.
C'est ça, exactement. En fait, on s'est aperçu, on a fait un petit constat, c'est au bout de 15 ans de à force de lire les témoignages des patients, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des problématiques assez sérieuses, c'est-à-dire que les patients, ils sont vraiment en manque d'informations. Et surtout avec les réseaux sociaux, ils n'ont pas tout le temps les bonnes informations. Et surtout, après leur diagnostic, le patient est souvent lâché dans la nature avec très peu d'infos, mais vraiment très peu d'infos sur la maladie. Et oui, donc on s'est rendu compte qu'il manquait un outil simple et efficace pour répondre à toutes ces questions. Et c'est pour ça qu'on a créé l'application Ma vie avec la sclérose en plaques, qu'on a pensé comme un roman graphique dont vous êtes le héros. Donc en fait, on invite les utilisateurs à se mettre dans la peau d'un patient, hein, en vue subjective, hein, et on l'invite à vivre une histoire illustrée et immersive. Et surtout, chaque situation, c'est un prétexte pour donner des informations originales, parce qu'on a des podcasts, des vidéos, des articles, et surtout qui ont été créés par l'association, mais avec l'aide de patients, et surtout de professionnels de santé, experts en sclérose en plaques.
Ouais, les CHU de Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Strasbourg et Toulouse, pour les citer. Comment on traite aujourd'hui à l'hôpital la sclérose en plaques ?
Alors, comment on traite la sclérose en plaques ? Ben, mieux qu'avant, quand même.
Ça, c'est une bonne nouvelle, merci.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez, moi, quand je suis tombé malade il y a maintenant 22 ans, il existait un traitement, enfin une molécule. Mmh. Et maintenant, il y en a, donc 22 ans plus tard, il y en a quand même 13 maintenant. Donc la situation des patients s'est vraiment améliorée.
Je suis quand même étonné, et pour les personnes que je connais dans mon entourage qui sont concernées, elles sont assez jeunes, c'est par la tranche d'âge, je disais entre 20 et 40 ans, les premiers diagnostiqués. Comment se fait-il que ce soit quand même une population jeune qui se retrouve concernée?
On ne sait pas, hein. on sait que c'est une maladie du jeune adulte, on sait qu'elle est multifactorielle, donc il peut y avoir plein de facteurs qui rentrent en compte, hein. On sait que c'est plutôt une maladie de l'hémisphère nord, alors peut-être que c'est le manque de soleil, après c'est peut-être, c'est aussi beaucoup plus des femmes qui sont atteintes que des hommes, il y a 3/4 de femmes qui ont la sclérose en plaques, donc c'est peut-être le mode de vie aussi, le stress, la pollution, ça peut être plein de choses. Et nous on essaie d'expliquer dans notre application, on répond à plein de questions taboues et des questions un peu difficiles à traiter, comme est-ce que je vais finir en fauteuil roulant, est-ce que c'est héréditaire, enfin ce genre de questions. Donc ça, on traite tout ça dans notre appli.
L'adresse pour l'appli, c'est mva.notresclerose.org.
Mais et le site internet de l'association, c'est notresclerose.org.
Formidable.
Et là, on a toutes les infos, le lien pour télécharger l'appli, on a tout. Et on espère vraiment que les patients vont aimer cette appli. Et on a déjà quelques retours hyper positifs, donc ça nous met en joie vraiment. On nous dit que c'est un principe original, simple à comprendre, juste, le ton est juste et complet. Donc non, c'est super. On est vraiment très content de cette appli et je pense que ça manquait dans le paysage de la sclérose en plaques.
MVA, notresclerose.org et notresclerose.org. Merci Arnaud.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que au mois de mars, nous traverserons les départements des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de Maine-et-Loire avant d'aborder les Landes.